Bonjour à tous. Nous ne pouvons pas dire à n'importe qui, n'importe quoi, ni n'importe quand. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous un dernier sujet pour clore ma série de prédications sur la relation d'aide. Nous avions déjà vu ensemble que la relation d'aide, c'était une présence. Nous devons être présents pour celui qui souffre. Notre présence témoigne du soutien que nous voulons lui apporter. Puis, nous avons réfléchi sur l'écoute lors d'une relation d'aide. L'écoute active, celle qui cherche à trouver l'origine de la souffrance et nous aide à mieux comprendre la personne. Ce matin, je nous invite à réfléchir ensemble sur ce dernier sujet, une parole. Une personne qui nous partage un fardeau attend souvent de nous une parole en retour. Mais laquelle ? Comment répondre à celui qui souffre ? Que dire quand nous nous sentons dépassés par la situation ? Et avant d'aborder ces questions et de vous proposer quelques pistes de réflexion en m'aidant du livre de Job, j'aimerais redire ceci. Nous ne pouvons pas dire à n'importe qui, n'importe quoi, ni n'importe quand. Une personne qui souffre, souvent, ne comprend pas le but de cette souffrance. Et c'est à ce moment-ci que le doute s'immisce. Le doute est quelque chose de terrible à vivre dans un temps de détresse. On se pose alors des questions comme par exemple, ai-je assez la foi ? Dieu m'aime-t-il encore ? Ai-je péché pour souffrir ainsi ? Ou encore la question que l'on se pose toujours, pourquoi est-ce que je souffre ? Quand nous souffrons physiquement, notre foi peut défaillir. On se pose alors des questions. Le doute s'installe et le pire, c'est de vivre seul ces moments de détresse. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job pour lire dans le chapitre 4, au verset 1 à 5. En effet, Job vient de renier le jour de sa naissance, et Eliphaz, un de ses trois amis qui est présent, prend la parole. Donc je lirai dans le livre de Job, au chapitre 4, du verset 1 à 5. Alors, Eliphaz de Théman prit la parole et dit, « Peut-on risquer un mot ? Tu es si abattu. Mais qui peut garder le silence ? Tu as instruit beaucoup de gens et tu as fortifié ceux qui baissaient les bras. Tes propos relevaient celui qui trébuchait et tu raffermissais ceux dont les genoux fléchissaient. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé ? Maintenant que cela te touche, te voilà tout désemparé ? La Bible peut à la fois nous montrer le bon exemple et l'exemple à ne pas suivre. Et selon moi, une partie du livre de Job nous montre un exemple, une attitude à ne pas suivre, à ne pas avoir. Mais avant de parler de ces mauvaises paroles, je vous propose de voir ensemble quelle est l'utilité d'une parole et l'effet que cette parole a sur la personne qui souffre. Je souhaite aborder ces trois aspects ce matin, l'utilité d'une parole, l'effet d'une parole, et je terminerai sur les mauvaises paroles à ne pas avoir. L'utilité d'une parole. Apporter un encouragement, un conseil, un compliment, ce n'est pas toujours facile. Il ne suffit pas de se planter devant la personne un jour au hasard, à la fin d'un culte par exemple, et de lui dire « Prends courage, tu vas t'en sortir. » Alors, pas que ce ne soit pas bien, au contraire, mais l'encouragement n'aura sans doute pas le même effet que s'il est réfléchi, que s'il est mûri et donné au bon moment. Une personne qui souffre n'est pas toujours réceptive. Il faut savoir quand le moment est venu de lui apporter un encouragement qui va l'encourager. Par exemple, quand je suis en colère, si Mélissa me conseille de me calmer, malheureusement, je risque de ne pas l'écouter. Alors, pas que ses conseils ne soient pas bons, mais ce n'était pas le bon moment pour moi d'entendre ce conseil. Sa présence et son écoute doivent parfois précéder une parole qui aura sur moi l'impact voulu. Et en l'occurrence, dans cet exemple, c'est que je me calme. La parole de base, en relation d'aide, c'est la parole de confirmation. Confirmer l'autre dans ce qu'il vient de dire permet de clarifier ce qui est peut-être encore un peu flou, sans grande conviction. Le doute est une chose terrible, comme je le disais plus haut. En période de détresse, nous ne sommes plus sûrs de rien et nous avons besoin d'avoir un avis extérieur afin de confirmer ce qui nous semble vague et incertain. Quand une personne, par exemple, nous avoue aller mieux, confirmer cet aveu lui permet de s'y accrocher et d'y croire. Confirmer cette parole peut être dite à la légère, lui donne de l'importance aux yeux de celui qui doute. La confirmation est un outil utile quand il est utilisé avec empathie. Mais qu'est-ce que l'empathie ? L'empathie, c'est la capacité de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre. Cela permet de chercher à mieux comprendre l'autre, afin de lui dire ce qui, peut-être, l'aidera à aller de l'avant au moment où il en a le plus besoin. Une autre parole très importante après la confirmation, c'est le principe de poser des questions. Quelle est l'utilité de poser des questions, me direz-vous? En soi, c'est pour en connaître davantage sur la personne et sa situation. Mais d'une façon indirecte, c'est aussi une manière de lui faire comprendre que nous avons le souhait d'avoir de l'empathie pour elle. Lui faire comprendre que nous cherchons par nos questions à ressentir ses émotions. Mieux comprendre la situation grâce aux questions nous permet d'avoir de l'empathie. Et, si l'occasion se présente, nous pourrons alors confirmer sincèrement une de ses paroles, qui aura pour effet de l'encourager à progresser. Alors toutefois, nous abordons ce matin l'utilité des paroles, l'importance de confirmer avec empathie, de poser des questions. Mais dans certaines situations, il faut savoir simplement se taire. Oui. Parfois, il arrive qu'aucune parole ne puisse faire que la situation ne s'arrange. Il faut savoir être franc quand on nous pose une question dont nous n'avons pas de réponse. Et je me souviens, lors d'une visite dans un service de psychiatrie, un entretien, et puis une dame qui vient me voir et me dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour guérir ? Que puis-je faire pour guérir ?» Et moi, dépassé par cette question et par la situation, je lui ai avoué que je ne savais pas. Et je me suis tu. Alors heureusement, dans ces moments où nous nous sentons dépassés, durant ces moments où nous nous sentons seuls face à des situations, le Christ, lui, est avec nous. C'est d'ailleurs toujours vers lui qu'il faut diriger les regards. Toutes nos confirmations, nos questions, nos paroles doivent avoir pour résultat de diriger les regards vers le Christ, qui sera le seul capable de guérir nos plaies. C'est pour cette raison qu'il faut constamment être à l'écoute de l'Esprit, qui donne les mots justes et le discernement pour les apporter au bon moment. Je finis ce premier point avec l'importance de la prière. Si une seule parole devait être dite lors d'un accompagnement, ce devrait être une parole pour le Père. Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et cela peut suffire pour une personne qui souffre de se savoir soutenue dans la prière. L'effet d'une parole. À ce moment de la prédication, pour être clair avec vous, il faut préciser que nous ne sommes pas là pour abolir la souffrance, mais la rendre, dans la mesure du possible, plus supportable. Nos paroles n'auront jamais pour effet de guérir les blessures. Toutefois, le Seigneur peut utiliser ses paroles pour guérir qui il veut. C'est pour cette raison que je le répète. Parfois, il est préférable de se taire plutôt que de vouloir absolument apporter une parole sur une situation qui nous dépasse. Nous n'aurons jamais de mots magiques qui miraculeusement effaceront toute la souffrance d'une personne. Et nous pouvons lire que Job s'ouvre des mauvaises paroles. Quand il dit au chapitre 13, du verset 4 à 5, « Quant à vous, mes amis, vous forgez des mensonges. Vous êtes tous des médecins incompétents. Ah, si vous gardiez le silence, alors vous seriez sages. » Toutefois, quand les mots sont bien utilisés et que les paroles sont réfléchies, elles permettent de construire une relation de confiance. En effet, il ne suffit pas de quelques mots ou de quelques phrases pour construire une relation de confiance. Il faut du temps et il faut prendre ce temps. Si je souhaite qu'une personne ait la liberté de me parler de sa vie, il faut que je prenne le temps de construire une relation de confiance dans laquelle il pourra avoir une véritable relation d'aide. Alors, suis-je en train de dire que nous ne pouvons véritablement accompagner que nos amis proches? Eh bien, pourquoi pas? Encourager quelqu'un qui souffre cruellement, sans d'abord lui offrir notre amitié et l'aider à supporter sa souffrance, c'est faire le minimum. Alors, bien entendu, nous pouvons être à l'écoute de tous et nous pouvons apporter une parole réconfortante même aux personnes que nous ne connaissons pas. Mais si je souhaite que mes paroles soient bien comprises et qu'elles aient l'impact voulu, il me faut connaître et je dirais même apprécier la personne que l'on accompagne. Si donc je souhaite être présent, à l'écoute et aider tous mes frères et sœurs en Christ, il me faut faire tout mon possible pour les apprécier tous et être apprécié d'eux. Ce n'est que de cette façon que la confiance s'installe et qu'une relation d'aide peut être envisagée. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que nous ne pouvons décemment pas aider tout le monde. Nous ne pouvons pas aider tout le monde. Et parfois, il est préférable de laisser faire un ou une autre, mieux placé que moi, pour aider celui que nous voyons souffrir. La confiance permet de partager ses fardeaux avec sécurité. La sécurité est au final ce que nous attendons de tous, en tout cas de tous ceux en qui nous faisons confiance. La sécurité de ne pas être trahi, de ne pas être mal compris ou blessé. Se savoir compris engendre la sécurité. Savoir que telle ou telle personne, quand je lui parle, fera de son mieux pour me comprendre, cela me donne un sentiment de sécurité. Quand je ne vais pas bien, je vais plus facilement parler à celui dont j'ai confiance qu'à un autre. C'est normal. La parole que nous apportons, quand elle est dite avec mesure, peut avoir pour effet de donner de la sécurité à la personne qui nous partage ses fardeaux. Et c'est dans cette sécurité que la confiance continue à se construire. La parole est aussi un outil qui pousse celui qui souffre à partager davantage, afin de vider son sac entièrement. Pouvoir se décharger, partager ses fardeaux, qui pèsent parfois lourds sur les épaules, c'est réconfortant. Nous pouvons lire que c'est le souhait de Job qui, au chapitre 7 et au verset 11, dit « C'est pourquoi je ne veux plus réfréner ma langue. Je parlerai dans ma détresse. Je me lamenterai car mon cœur est amer. » Et aussi au chapitre 10, au verset 1, quand il dit « Je suis dégoûté de la vie. Je ne retiendrai plus mes plaintes. Je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être. » La parole est une manière de se libérer de nos chaînes qui bien souvent nous lient, nous empêchent d'avancer, nous étouffent. Nous avons besoin de se sentir soutenus, accompagnés, compris, dans une relation de confiance qui aura pour résultat de se sentir en sécurité, afin de partager ce qui nous empêche d'avancer. Je terminerai ce second point en disant que nous devons être un outil de consolation entre les mains du Christ. Nous devons savoir être un outil que le Saint-Esprit utilisera quand il le souhaitera, pour le bien-être de tel ou telle personne. C'est important de savoir qu'un tel dans l'Église a ce don de consolation. Job soupire ceci au chapitre 16, au verset 2, et dit « J'ai entendu beaucoup de discours de ce genre. Vous êtes tous de piètres consolateurs. » Lui, qui avait besoin de consolation à ce moment de sa vie, se sentait écrasé par les paroles accusatrices de ses amis. Et c'est là que j'en viens aux mauvaises paroles, aux paroles à ne pas avoir envers une personne qui souffre. Face à la souffrance, nous sommes invités à offrir non notre force, notre bon vouloir ou nos paroles bavardes, mais notre communion. Être présent, écouter et confirmer. Job s'exclame et dit au chapitre 16, verset 3, « Quand donc cesserez-vous de parler pour du vent ? » Qu'est-ce qui vous incite à répliquer encore ? Il vaut mieux ne rien dire que de dire des paroles qui risquent de blesser. C'est pour cela que je souhaite souligner maintenant trois attitudes ou paroles à ne pas avoir. La contradiction. Contredire une personne qui souffre déstabilise, provoque une souffrance supplémentaire. Nous lisons dans le livre de Job au chapitre 32, au verset 11, le jeune Éliou prendre pour la première fois la parole et dire ceci. « Jusqu'ici, j'attendais. J'écoutais vos discours et vos raisonnements pour vous laisser critiquer ces propos. » En parlant de Job. Et le verbe critiquer me titille un peu et attire mon attention. Les amis de Job le critiquent, le contredisent. Et comme nous pouvons le lire dans le livre, sur plus de 29 chapitres, cela ne fait pas avancer les choses, bien au contraire. La contradiction n'aide pas celui qui souffre à aller de l'avant, mais aura plutôt tendance à le casser dans son élan. Éliou continue, un chapitre plus loin, au chapitre 33, du verset 8 à 12, et contredit lui aussi Job, en disant « Tu as dit devant moi, et j'ai bien entendu le son de tes paroles. Je suis pur, sans péché. Je suis net et exempt de faute. Cependant, Dieu invente contre moi des prétextes. Il me considère comme son ennemi. Il a mis mes pieds dans des fers et il surveille tous mes pas. En cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire, car Dieu est bien plus grand que l'homme. » Job avait peut-être tort de dire ces mots. Ses paroles étaient peut-être injustes, mais était-ce le bon moment pour rajuster ses pensées? Lui qui souffre amèrement aura des paroles parfois dures, mais ne faut-il pas voir au-delà? En quoi être contredit l'aidera à avancer? J'ai une petite histoire qui me vient en tête. Il y a quelques mois, en octobre, nous avons invité une équipe de l'Institut biblique de Nogent. Et moi aussi, durant mes études, j'ai eu l'occasion de partir dans les églises pour faire des campagnes d'évangélisation et de découvrir un peu le ministère pastoral. Et une année, je suis allé à Verdun. Et durant cette semaine, on nous a proposé de faire la visite d'une dame. Et alors le pasteur nous avait prévenu, attention, son mari n'est pas chrétien, il est même assez réticent à tout ce qui concerne la foi, et sa femme en souffre. Bon, donc on va la visiter, elle était seule, son mari était au travail, et là elle nous avoue dans l'entretien qu'elle a peur d'aller au week-end d'église, parce qu'elle a peur que son mari se mette en colère et lui fasse la tête pendant plusieurs jours. Et alors là, j'ai eu honte, parce que deux de mes collègues se sont mis en révolte et ont contredit de façon assez brutale cette dame en lui disant que c'était honteux, qu'il fallait absolument qu'elle vienne au week-end d'église pour le Seigneur, au risque de subir la colère de son mari. Et elle s'est mise à pleurer. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré leur révolte, n'est pas venu au week-end d'église. Nous avons tendance parfois à contredire parce que quelque chose nous révolte, que nous trouvons injuste, qui ne correspond pas à notre opinion. Toutefois, il ne faut pas tirer de conclusions trop vite. Contredire une personne qui souffre ne l'aidera pas, au contraire. Il est préférable de ne pas parler avec précipitation et, je dirais même, de tourner sa langue dans sa bouche avant de vouloir contredire. Une seconde parole à ne pas avoir, c'est le reproche. L'encouragement, le compliment ou le conseil ne doit pas avoir l'allure d'un reproche. Il ne doit pas être habillé d'un reproche. Nous lisons un des trois amis de Job lui dire au chapitre 4 du verset 1 à 5, donc ce texte que nous avons lu au début, « Peut-on risquer un mot? Tu es si abattu, mais qui peut garder le silence ?» Et là on sent un peu, hein, ça révolte, il est révolté. « Tu as instruit beaucoup de gens et tu as fortifié ceux qui baissaient les bras. » Un premier compliment. Tes propos relevaient celui qui trébuchait et tu affermissais ceux dont les genoux fléchissaient. Un second compliment. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé ? On sent un peu, hein, une parole moqueuse. Maintenant que cela te touche, te voilà tout désemparé ? Là aussi, une parole un peu moqueuse. Voici un exemple d'encouragement qui n'encourage pas. Ici, l'ami de Job a raté une occasion de se taire. C'est important de pouvoir complimenter, oui. Mais il ne faut pas que ce compliment soit indirectement une critique. Une attitude à ne pas avoir, c'est l'attitude de se prendre pour le Christ lui-même. Et on se fait vite avoir. Cette attitude, c'est l'attitude de se dire que nous avons les mots justes pour toutes les souffrances qui existent. J'ai rencontré des gens qui, dans un excès de zèle et sans le vouloir, se sont pris pour le Christ et ont apporté une parole dans le but de réconcilier, de guérir ou de calmer, et n'ont semé que des blessures supplémentaires. C'est le Christ qui nous utilise, s'il le souhaite, pour la guérison d'un d'entre nous. Mais ce n'est pas nous qui utilisons le Christ pour guérir celui que nous voyons souffrir. Nous nous laissons parfois vite emporter, souvent avec de bonnes intentions. Mais il faut faire preuve de discernement pour juger nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et j'en viendrai à ma conclusion pour dire et pour rappeler une fois de plus, nous ne pouvons pas dire à n'importe qui n'importe quoi, ni n'importe quand. Nous ne sommes pas là pour donner un sens à la souffrance. Nous sommes là simplement pour nous soutenir les uns les autres, pour nous accompagner les uns les autres, prendre le temps de nous écouter les uns les autres. La relation d'aide, celle qui par amitié aidera celui qui souffre, doit avoir une place importante dans l'Église du Christ. Toutefois, cela prend du temps, il faut l'admettre. Mais il est toujours bon de le prendre. C'est un peu comme l'histoire de cet animateur de Caen dont je vous ai parlé au tout début de cette série de prédications quand je parlais sur la présence. Et il aurait très bien pu ne pas prendre le temps de s'asseoir en silence à côté du petit enfant, du petit garçon malade. Il aurait pu. Mais s'il ne l'avait pas fait, ce même enfant n'aurait pas retrouvé la joie d'être en compagnie de ses copains avant de mourir. Je souhaite finir avec cette dernière parole du théologien et psychanalyste Eugène Dreuermann, qui dit ceci, et que j'ai trouvé très intéressant. Le meilleur théologien, c'est celui qui garde le silence et s'assoit à côté de celui qui souffre. Oui, le meilleur théologien. C'est celui qui garde le silence et s'assoit à côté de celui qui souffre.